Bon matin à vous, jeunes gens. C'est parti, Cinébrunch, votre rendez-vous cinématographique matinal du samedi. François Berthiaume au micro pour la saison estivale, comme toujours, accompagné aussi de Vicky Langlois.
Hello, hello!
Bonjour, bonjour. Une voix revigorée comparée à la semaine dernière.
C'est l'énergie de retour.
Voyez-la, mesdames et messieurs, elle a pris du mieux et c'est tant mieux.
Donc. Et pourtant, je suis quand même en pyjama. Oui. Cinébrunch all the way, pyjama.
Mais c'est ça, Cinébrunch, hein, c'est réfléchir, parler de cinéma tout en tenant le café à la main et le pyjama au pantalon.
Et voilà!
Et voilà, et
c'est
voilà!
C'est bien dit!
Mais merci, merci.
Le café à la main, le pyjama au pantalon.
Et je ne l'ai pas préparé, je le jure.
Non, hein, c'était très spontané.
Merci,
apprécié,
merci.
Apprécié, mon cher.
Programme très chargé quand même aujourd'hui, ou du moins, on a une petite constante, on va voir, là, d'une chronique à l'autre. Oui, on pourrait quasiment dire que c'est un cinébrunch spécial horreur. Oui, oui.
OK.
Ben, on se prend un petit peu d'avance avant l'octobre et l'actualité des quelques films sur lesquels on est tombé cette semaine nous ont amené à un tel programme. Alors, profitons-en. J'ai ouï dire justement que tu avais une certaine connaissance en cinéma d'horreur.
Quand même. Puis depuis les dernières semaines, je te disais que c'était ça que je faisais de rattrapage. Ben, c'est énormément en cinéma d'horreur que j'ai fait mon rattrapage.
Bon, ben, on va exploiter ce rattrapage-là à nos
Allons-y.
Fins. Espérons qu'on en apprenne un petit peu par la bande. On va commencer tout de suite avec nos petites actualités qui sont quand même plus courtes et légères qu'à l'habitude, mais non, ni plus ni moins, tout moins intéressantes. Le film The Hunt, je sais pas si t'en as entendu parler.
Oui.
Je sais quand même que, il me semble, toi, personnellement, tu m'avais dit que tu ne regardes pas beaucoup de bandes annonces.
Non, j'ai entendu qu'il était sorti, par exemple, hier, c'était sur mon Facebook.
Ben, c'est ça, ouais. Il y a quelques semaines, Universal avait sorti la bande annonce du film The Hunt, qui, si je ne m'abuse, est un remake ou du moins un concept qu'on a déjà vu dans des films d'horreur un peu plus vieux, où, dans le fond, une certaine classe sociale plus riche ou du moins plus aisé chasse littéralement des humains un peu bon, on va exploiter peut-être le côté un petit peu plus défavorisé mais surtout oui c'est ça une place pour une chasse à l'homme littéralement. La bande-annonce était sortie sans faire trop de bruit à ce moment-ci. Disons qu'il y a un autre film d'horreur qui sort bientôt qui a un peu la même prémisse, Ready or Not, que ça s'appelle aussi, où là, c'est une jeune mariée qui se fait chasser dans une maison par sa belle famille. Bref, si ce n'avait pas été des deux fusillades aux États-Unis la semaine dernière à El Paso, notamment. On n'aurait peut-être pas entendu parler autant de The Hunt, mais malheureusement, les projecteurs ont été mis un peu sur le film parce que certaines personnes, ni plus ni moins aussi que le président des États-Unis, a blâmé un peu le caractère très radical du concept du film, du propos du film, ou du moins de celle de la bande-annonce. Et j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus parce que, bon, tout le monde est un peu familier avec ça. Hein. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une fusillade aux États-Unis, les gens qui sont plus ou moins proches des lobbies des armes à feu vont jeter le blâme, non pas sur les armes à feu, mais davantage sur, bon, oui, la maladie mentale, mais surtout les jeux vidéo et les films violents.
Sur à peu près tout, sauf les armes.
Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Tout ce qu'on peut faire pour essayer de tasser justement l'attention, de la mettre ailleurs, on va la mettre là-dessus. Et bien entendu, une bande-annonce comme celle de The Hunt, qui était sortie à peu près au même moment, nul doute que ça a été un outil assez efficace à la rhétorique de Donald Trump, lui-même qui a tweeté justement sur le film pour blâmer son contenu, et je cite, « raciste au plus haut point et cherchant à provoquer le chaos ». Alors, on sait très bien hein, que souvent, ce qu'on peut rapporter sur Twitter, notamment des tweets de certains gens puissants, il faut les prendre avec un grain de sel. Alors, je me suis amusé personnellement en voyant ça, parce que suite aux tweets et suite un peu aux accusations qui ont été portées par différents représentants du lobby des armes à feu, Universal a annoncé que le film, dans un premier temps, allait cesser sa promotion, mais a annoncé ensuite aussi qu'il allait annuler tout simplement sa sortie. Ouais. Le film est donc maintenant, pour l'instant, remis à plus tard, à une date indéterminée, pour pas concorder non plus justement avec les tragédies et bien entendu ne pas nuire à la sortie du film ou même à son image. Mais je me demandais justement à quel point le film avait un propos ou quelque chose de choquant à l'intérieur. Du moins, si je me fie au tweet du président qui traite justement de raciste au plus haut point. J'étais allé voir la bande-annonce pour le plaisir. Bon, entre toi puis moi, tu l'as-tu vu?
La bande-annonce, non.
Non, ok, ok.
Vas-y.
Bon, film qui a l'air relativement moyen. Là,
en plus.
En toi et moi, là, ça n'a pas
l'air... Est-ce qu'on est encore dans la même tempête dans un verre d'eau que le film sur l'avortement?
Ben oui, oui, mais à une autre échelle. Parce que là, vraiment, avec le film en pleine, oui, c'est ça qui était...
Un film relativement moyen dont tout le monde parle parce qu'il fait le buzz.
Et même mauvais, en fait. Je pense que tout le monde s'entendait pour dire que c'était un mauvais film. Sauf que là, là où le film était un peu la source de la polémique, là, ici, on a littéralement... faire un bouc émissaire, parce que si tu regardes la bande-annonce, elle est relativement banale, et même, moi, le raciste au plus haut point, je l'ai pas vu. En fait, s'il y avait un seul point raciste dans ce film, dans la bande-annonce du moins de ce film-là, c'est qu'en fait, il n'y a aucun personnage issu d'une minorité ethnique. En fait, j'ai noté qu'on voit un seul personnage afro-américain dans la bande-annonce pendant une seconde relativement tertiaire. Le reste du temps, c'est des gens caucasiens des deux côtés, bons ou méchants, dans un film qui a l'air d'un thriller d'action qui se tire
alors,
dessus. Oui.
Pourquoi est-ce que c'est raciste?
C'est ça que je me demande. En fait, est-ce que c'est peut-être raciste ou raciste envers les luttes des classes? On sait, ben, ça fait pas de sens, mais bon, les tweets du président font pas de sens non plus.
Je sais, c'est juste que comme je te dis, j'ai pas vu, puis je me dis, il y a sûrement des auditeurs qui l'ont pas vu non plus, et ils cherchent. Parce que oui, je comprends que le propos peut être vraiment intense, dans le sens où on parle de chasser des gens dans un temps de tuerie, ok, mais le racisme,
mais même là, mais c'est ça, ben, je vous invite à aller la
voir.
Elle
est encore disponible, la bande-annonce.
Oui, absolument, sur Internet, on peut la retrouver un peu partout. Puis je vous invite à aller voir justement en quoi est-ce que justement la bande-annonce peut être raciste. En fait, c'est ça, c'est le seul point qu'on pourrait blâmer justement, c'est l'utilisation de l'arme à feu, de tuer des hommes aussi justement dans la bande-annonce, à la limite qu'ils soient des innocents, quoique des fois ça n'a pas l'air le cas. Bref, à cette limite-là, il y a plein de bande-annonces aussi qui serait à blâmer. Vraiment, c'est le parfait exemple justement de ce produit culturel qui sert justement, comme je disais, de bouc émissaire pour essayer de mettre l'attention sur autre chose. Puis vraiment, c'est avec des exemples comme ça justement que la rhétorique de ces lobbies pour les armes à feu tombe complètement. Parce que, je veux dire, là, on a un exemple parfait d'une accusation portée sur un objet, une bande-annonce que tout le monde peut voir puis constater par lui-même que elle n'a rien à voir avec les tragédies qui sont arrivées, puis ni même un propos ou un message qui pourrait porter à polémique.
Non, mais reste qu'on parle de chasser des gens avec des armes à feu. Je pense qu'à sa plus simple expression, on ne peut pas nier que ça peut être difficile pour les gens qui souffrent de PTSD et ce genre de choses. C'est sûr que qu'est-ce que tu vas faire aller voir ça au cinéma, on s'entend, là. Oui. Mais oui, tu sais, on ne peut pas nier que ça fait partie de quelque chose de collectif, présentement, qui se vit. Je peux comprendre, mais si on n'a pas censuré Unplanned, je vois pas pourquoi on devrait censurer celui-là. Mais ça, c'est mes propos à moi.
Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Dans le fond, c'est que c'est assez justifiable que la date soit repoussée.
Mais
c'est pas
sortir.
Justifiable, mais c'est ça. Ouais, mais je pense qu'il va sortir quand même. Okay. Je pense qu'ils vont laisser un peu la poussière retomber,
ben,
comme ça arrive.
Pas être poche, mais la prochaine tuerie pourrait être demain aux États-Unis.
Donc,
la poussière ne retombera jamais aux États-Unis.
Puis surtout aussi, souvent, si je me fie à d'autres films comme ça qui ont subi un peu les contre-coups d'une tragédie qui s'est réellement passée, souvent, ça va nuire un peu. Le film va sortir un peu dans l'anonymat dans quelques mois plus tard. Je pense notamment au film, c'était Gangster Squad avec Sean Penn, Josh Brolin, qui mettait en scène une séquence dans le fond, où des gangsters rentraient dans une salle de cinéma et fusillaient des membres de la mafia qui étaient à l'intérieur. Ce film-là était sorti à peu près au même moment où il y avait eu aussi, je ne sais pas si tu te rappelles...
Le Batman?
Oui, exactement, une fusillade dans les salles du film Batman Dark Knight Rises. Ce qui avait mené le film à être repoussé de quelques mois, qu'on l'avait sorti plus tard et... Finalement, on avait perdu le buzz autour de ça. C'est ce qui risque d'arriver avec ce film-là. Bonne chose, mauvaise chose, non. Mais faut quand même exposer, justement, là, peut-être le côté assez divertissement du film et peut-être pas le côté très polémique. Parce que encore là, comme je dis, allez voir la bande-annonce, vous allez voir que c'est surtout un film assez banal plutôt qu'un pamphlet suprémaciste ou raciste ou quoi que ce soit. Ouais. Mais bon.
Pas de misère à te croire.
Ah non, je sais bien, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, fait qu'on commence à être habitué.
Et voilà.
Et voilà. Donc, c'était notre bref parti pour les actualités. Semaine tranquille, hein, mais vous le savez, l'été, c'est un peu ça au niveau cinéma. Des fois, on prend ça tranquille, petit café à la main, comme on le disait, et on enchaîne avec notre première critique.
It's a fine little house, Jack.
Are you allowed to speak along the way? I was thinking there might be rules.
Let me put it this way. Very few make it all the way without uttering a word. But do carry on merrily. Just don't believe you're going to tell me something I haven't heard before.
De retour à Cinébrunch, tout le monde. Ce que vous venez d'entendre, c'est un bref extrait de la bande-annonce du dernier film en date, encore aujourd'hui, du réalisateur Lars von Trier, The House That Jack Built, film de 2018 et qui est sujet, l'objet de la critique de Vicky Langlois dans le cadre de son rattrapage d'été.
Exactement. Et on parlait de films controversés. On parlait de films qui ne devraient donc pas avoir lieu.
On est dans la même veine.
On est exactement dans cette veine-là.
Mais avec la filmographie de Lars von Trier, on est dans la même veine.
On est dans ça tout le temps. Cette fois-ci, Lars von Trier vient avec l'exploration d'un tueur en série qui aurait tué plus de 60 victimes. Et c'est du Lars von Trier pur et dur. Moi, je vais dire de but en blanc, j'ai apprécié le film, j'ai vraiment apprécié. Puis plus je vieillis, plus j'apprécie Lars von Trier, mais c'est parce que je pense que ce que j'aime, c'est son irrévérence. C'est l'espèce de... C'est ça le film que je te propose. Embarque ou embarque pas, je m'en fous, c'est ça le film que je te propose.
Est-ce que plus jeune, parce que tu dis maintenant tu les apprécies un peu plus, est-ce que c'est parce qu'il y a une compréhension que tu n'avais pas
compréhension.
Avant?
Compréhension, vraiment dans la compréhension, parce qu'on aurait dit que je voulais tout fasse du sens. Et Lars von Trier ne fait pas toujours de sens.
Ah,
et
non,
ce
non,
film-là
non.
ne fait pas de sens sur la temporalité. C'est hyper dur à suivre niveau temporalité.
Tu veux dire qu'on a beaucoup de flashbacks?
Des allers-retours. On a entendu au début de la bande-annonce deux voix qui se parlaient, donc quelqu'un qui parle à Jack. On ne sait pas vraiment c'est qui cette deuxième voix-là.
Ah, non,
on comprend un peu à la fin, mais ça ne fait pas de sens avec ce qui se passe à la fin sur la conversation qu'ils ont eue tout le long du film. C'est un film très hermétique, mais très accessible tout à la fois. Je veux dire déjà, d'abord que pour ceux qui vont dans les films d'horreur et qui vont voir ça comme un film d'horreur, parce qu'il a été vanté comme un film épouvantable, dégueulasse, qui va trop loin, qui va dans les limites
on
du
est
gore.
Vraiment dans le point de vue d'un tueur en série. C'est ça qu'on
oui,
vendait.
Oui, exactement. Puis on dit qu'il était allé trop loin. C'est vrai que, désolé pour les oreilles chasses et qui peuvent avoir de la difficulté ce matin, oui, on va dans le meurtre d'enfant. On y va. Très crûment. Très crûment. C'est très difficile à voir. C'est très, très dur. Mais... c'est dans la c'est une abondance de meurtres, c'est une abondance de crimes. C'est pas tout le monde qui va être prêt à voir ce genre de film-là, parce qu'on est vraiment dans l'abondance de cadavres. Et on humanise les cadavres. Souvent, dans des films, entre autres les slashers ou les films d'horreur, on humanise très peu les victimes. Soit on a hâte qu'ils meurent, soit on n'a pas d'intérêt. Puis ceux pour qui on a de l'intérêt vont généralement survivre ou mourir dans les derniers, dans des souffrances qui vont nous faire souffrir.
Ils sont davantage lieu à prétexte pour une scène.
Exactement. Ouais. Alors que dans ce film-là, on n'apprécie pas du tout le personnage de Jack. On n'est pas capable de l'apprécier, mais pas du tout. On l'haït, on n'aime pas suivre son histoire. Et on aime beaucoup ses victimes. On trouve que ses victimes font pitié. Énormément. Donc, ce film-là ramène un miroir vraiment étrange du film de tueur en série. Tu te souviens, cet été, je te parlais à quel point on étudiait gros les murders, puis
le true crime. Oui.
Mais dans le true crime, on glamorise beaucoup le tueur. Hein?
Ah, ben oui, c'est lui qu'on met à l'avant-plan.
On le met à l'avant-plan, on le glamorise, on lui donne plein de backstory, on lui donne plein d'histoires qui lui donneraient raison d'avoir agi de la sorte. Mm-hmm. Jack, non. Jack, on sait pas il est où dans sa vie. Parfois, il a la moustache, d'autres fois, il a la barbe, d'autres fois, il a l'autre encore moustache, puis tu comprends pas dans quel sens qu'on est dans l'histoire. Moi, un des crimes, je pensais que c'est un de ses premiers, puis on apprend que c'est un de ses derniers. Tu sais, c'est vraiment mélangé au niveau de la trame historique, là, vraiment de trame temporelle, mais l'histoire se tient dans le sens où tu suis vraiment l'idée que Jack a de se créer une maison. Et il se crée une maison de cadavres. C'est vraiment ça, François, c'est répugnant. C'est un homme qui, dans sa folie, décide de se créer une maison constituée de cadavres. Mais quand on comprend le cinéma de Lars von Trier, qui est un cinéma énormément de la dépression, qui est un cinéma de la noirceur, on dirait que Lars von Trier cherche dans la noirceur, la lumière, cherche dans le plus profond du dark, le mini peu d'espoir. Et je pense que c'est ça, The House That Jack Built. C'est aller tellement loin dans le sinistre, dans le sombre, qu'on peut se dire que est-ce qu'il y a de l'espoir pour tout le monde? Est-ce qu'il y a de l'espoir dans le pire des... Tu sais, dans le pire de ce que tu peux vivre, est-ce que les cadavres qui s'empilent chez Jack, c'est une métaphore parce que il s'en sort beaucoup trop facilement. Là, je veux dire, il s'en sort. Là, c'est à Manny, il prend une voiture de police, il la laisse sur les sirènes à l'entrée de où ce qu'il a empilé les cadavres. La voiture tourne à l'infini dans le bruit de la sirène, puis il y aura jamais rien qui va se passer avec ça. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, t'entends une voiture de police au loin à l'infini, c'est sûr qu'à Manny, il y a quelqu'un qui va aller voir pour quelque chose. Donc, c'est de savoir jusqu'à quel point cet homme-là n'est pas dans une pièce capitonnée à juste être dans sa tête, Jack en question. Et c'est la puissance du cinéma de von Trier, c'est vraiment d'aller au-delà de tes limites, de l'acceptable, de ce que tu peux voir. Puis que quand cette limite-là est atteinte, on t'amène dans le rêve totalement. Il avait fait ça beaucoup avec Antichrist. C'était...
C'est vrai.
On va t'amener tellement loin de tes limites, de ce que tu es capable de tolérer, qu'après, on va t'amener dans le fantasme, dans le rêve, dans le symbolique. Là, c'est juste qu'il va dans l'empilement de cadavres, fait que ça peut être vraiment difficile. Mais c'est le même contexte un peu. Mélancolia que je veux revoir, il est vraiment sur ma liste de films que j'ai vus, mais que je veux revoir, c'est la même chose. C'est un film sur de la dépression. C'est un film sur ne pas s'aimer soi-même. Jack, mm-hmm. c'est la même chose. Mm-hmm. C'est un film sur ne pas s'aimer soi-même.
Moi, tu me fais penser beaucoup aussi, en tout cas de la manière que tu parles, là, ça a l'air d'un film très centré justement sur le développement de personnages, du moins du protagoniste. On a l'air très centré sur lui. Ça fait très nymphomaniaque aussi, en quelque
très
part.
Nymphomaniaque.
Au lieu de prendre la sexualité, on va prendre
le crime,
la violence.
Oui, puis c'est cette personne qui est tellement centrée sur elle-même qui ne voit pas les dommages qu'elle crée. Et il y a une fois dans le film, Jack pleure à une de ses victimes, il dit « Regarde ce que tu m'as fait faire » et j'aimais pas ça. Parce que je dis « Ah, je veux pas qu'il prenne cette tangente-là, je veux pas qu'il accueille ses victimes,
qu'on
faut qu'il accepte. »
Qu'on humanise trop,
ouais,
qu'on
faut
rend
qu'on
attachant.
C'est ça, puis faut qu'on... Non, puis mais c'est comme si je veux pas que le bourreau se trouve une excuse. Il est trop fou. il ne doit pas se trouver une excuse.
Que la maladie mentale,
ouais,
justement.
Et ça dure vraiment là, quelques phrases, puis après ça, on passe à autre chose. Puis ça, j'étais vraiment contente parce qu'il va loin. Là. Mm-hmm. C'est un fou malade mental. Là. Il va loin. Là. C'est dégueulasse ce qu'il fait. Je ne veux pas qu'il se trouve une raison. Je ne veux pas qu'il soit genre, regarde, qu'est-ce que tu me fais faire, c'est à cause d'elle. Non. Je veux qu'il assume qu'il est complètement fou. Et ça, il réassume, il switch, puis il réassume après avoir agi comme un salaud. Puis, il y a une super belle métaphore dans le film sur sa façon de tuer. C'est qu'il dit, c'est comme si j'étais à l'intersection de deux lampadaires. Et quand j'avance, mon meurtre est derrière moi. À un moment donné, j'arrive à un point où les meurtres n'existent plus. Et quand j'avance, mon meurtre est en avant de moi, en parlant de son ombre. Mmh. C'est imagé, c'est super beau. Et je pense qu'il réussit vraiment à nous faire comprendre le méchant de son personnage. Je vais être dans les mots faciles, mais le méchant. Donc, c'est pas un film pour tout le monde, mais c'est un film que je conseille si vous avez vraiment envie de l'anarchie en cinéma. Tu sais, un film que t'as pas censé tout comprendre, un film relativement hermétique, un film qui aura pas nécessairement de fin, mais qui est anarchique, qui est cru.
Ça en tient beaucoup au sens. Il y a quelque chose de sensoriel dans le cinéma.
Énormément sensoriel. Énormément. Là, c'est assumé totalement avec parfois des ralentis, d'autres fois des augmentations de vitesse, parfois du dessin. On a du dessin, on a des scènes qui sont tournées à l'envers. On a des affaires totalement inconscientes qui vont vraiment dans l'imaginaire. Si vous êtes prêt pour ça, vous allez l'apprécier.
Question pour toi. Je t'entends depuis le début. Tu dis à la fois que le film n'est pas pour tout le monde, mais tu disais accessible aussi au début. La filmographie de Lars von Trier, bon, on l'a évoqué un petit peu tout ça. Est-ce que parmi tous ces films-là qui sont assez choquants, qui vont toujours puiser justement dans les affects les plus sombres de la personnalité humaine, est-ce que c'est un des plus accessibles parmi ceux-là?
Si tu ne cherches pas à avoir une histoire de A à Z avec début, milieu, pivot, fin...
Mais rendu là, il n'y a pas beaucoup de films de Lars von Trier
exactement,
qu'on devrait recommander.
Exactement. Mais je pense que c'est un de ses plus accessibles. Encore une fois, je vais continuer à dire que c'est excessivement violent.
Accessible malgré tout. Hein,
et
malgré,
voilà.
Ouais.
Mais à comparer, mettons, un infomaniaque qui peut devenir un peu long, un peu redondant...
Surtout avec ses deux parties aussi, au niveau du format.
L'infomaniaque, je le trouve un peu long, un peu redondant. Mais celui-ci, je l'ai trouvé vraiment très cru, très direct. On nous montre ce qu'on a à nous montrer. On ne tergiverse pas. Mais c'est toute une ride.
Ouais. Ben, encore là, bon, on prend en évoquer d'autres. On disait Nymphomaniac, Antichrist, qui sont quand même aussi toute une ride, si on peut se le permettre.
Les films de Lars von Trier font réagir. Celui-ci, là, les gens, il est sorti à Cannes parce qu'il sort la majorité de ses films à Cannes. Et les gens étaient en bourgeois le vert, si vous me permettez l'expression, parce qu'il ne voulait pas voir ça. Mais je pense qu'on ne peut pas être prêt à ce genre de film-là. On peut être prêt à un infomaniaque, on peut être prêt à un antéchrist qui va venir nous bouleverser, mais prêt à un homme qui tue aussi froidement et de façon si vraie. Je sentais les gens mourir. Puis je les connaissais pas, c'était des victimes random, mais ils me faisaient de la peine. Mm-hmm. C'était difficile les voir mourir, ce qui est étrange à un film d'horreur, comme je te disais tantôt, où on oublie rapidement la dernière victime pour passer à la prochaine.
Mais est-ce qu'on approche le cul-de-sac? Parce que, je veux dire, forcément, quelque part, à force de faire ses petites visites, d'être banni du Festival de Cannes, de revenir du Festival de Cannes, d'aller faire un film choquant sur la religion, sur le sexe, sur la violence. Est-ce qu'il y a encore une avenue pour le cinéma de Lars von Trier tel qu'il est en ce moment?
Oui.
Ou est-ce que The House That Jack Built, c'est finalement un peu la culmination?
Non, moi, je pense qu'il va y avoir un autre personnage qui va nous arriver, qui va nous surprendre. On aime beaucoup ces personnages féminins. C'est rare qu'il y ait avec un personnage masculin. Je pense qu'il pourrait continuer dans l'allée du personnage masculin. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ouais. Et non, on n'en est pas à nos fins parce que j'ai l'impression qu'il a exploré, l'animation dans celui-là et pas l'animation.
Oui,
il y a des séquences animées. Ouais. Et ça, on l'a rarement vu. Oui, il y a des séquences CGI d'animaux dans l'infomaniaque ou les doigts qui s'envolent ou la fausse lune ou le soleil qui explose dans Mélancolia, mais là, on est vraiment dans une séquence animée et je pense que Lars von Trier pourrait nous surprendre avec un film plus animé qu'en plan réel.
C'est peut-être là, justement, sa porte de sortie, son avenir. Là, ça me rappelle aussi, je pense que c'était Dancer in the Dark, qui était une comédie musicale.
Oui.
Peut-être ce changement de format-là
C'est vrai.
Pour Von Trier, c'est peut-être ça aussi qui va l'aider à rester subversif aussi en quelque part, parce que moi, c'est là que je m'inquiète un peu. C'est qu'à force de proposer des personnages aussi choquants à chaque fois, est-ce qu'on va pas finir par être blasé ou par trouver ça un peu prévisible en quelque part?
Mais c'est sûr que The House That Jack Built est zéro prévisible. Ça, okay. C'est zéro okay. Prévisible. Non, parce que tu vas vraiment d'une victime à une autre, puis tu sais plus t'es où dans le temps. Fait que t'es tout le temps, faut que tu sois alerte pour comprendre on est où dans le temps. Quand il y a la voix avec l'autre personne avec qui se parle, tu te dis, mais à qui qu'ils parlent? On est rendu où dans leur histoire? Qu'est-ce qu'ils se disent?
Mm-hmm.
Non, vraiment, non, c'est pas prévisible du tout. Moi, j'ai pas vu où ce film-là allait, encore moins dans sa fin. Très original, très différente. Moi, je pense que si Lars von Trier aime encore ses personnages comme il les a toujours aimés, il pourrait nous arriver avec un film relativement animé et qu'on ait beaucoup de surprises, ouais.
Ça pourrait être le fun, ça.
Ouais.
Mais tu disais des surprises, là. Certaines, je trouve qu'on a souvent avec le cinéma de Lars von Trier. C'est aussi le casting, la distribution.
Ouais.
Björk, justement, dans Dancer in the Dark, ou Kristen Dunst dans Melancholia, même, qui
Charlotte
est assez
Gainsbourg.
Surprenant. Matt Dillon, qui est quand même pas un... qui est un acteur qui est quand même là depuis longtemps, mais
c'est
relativement
ça,
ouais. Effacé. Film de série B, tout ça. Même, on entendait dans Bandanon, je pense, Bruno Ganz. Grand acteur
ouais.
Allemand aussi du film La Chute. Comment on s'en sort avec ça? Il y a Uma Thurman, je pense, aussi dans le film.
Pas dans celui-là.
Ah non, pas dans celui-là?
Non, non Uma Thurman, non. Ouais, pas dans The House That Jack Built.
OK, OK.
Non. Mais comment qu'on s'en sort? Je pense qu'on s'en sort parce qu'on a le l'acteur qui veut participer. Parce mm-hmm. que, sincèrement, notre acteur ici, Matt, il se donne. Vraiment, c'est incroyable la performance. Puis je pense que c'était dur de rendre quelqu'un froid et triste. C'est très dur. Quand il a envie de pleurer, tu fais comme « Oh, OK, il a envie de pleurer. » Mais deux minutes avant, il était super froid, puis il retourne super froid tout de suite après, hyper calculateur. Mm-hmm. Ou il y a une scène d'obsession. Il est sûr d'avoir laissé du sang sur la scène de crime et il l'obsède. Il est où le sang? Il est où le sang? Et tu le sens, l'obsession. Tu sens que ça le ronge. Tu le sens que ça le fait se tuer. Tu le sens que c'est hyper préoccupant. Et pourtant, il n'est pas à se regarder la montre ou à se tuer. C'est dans son rendu physique. Donc, je pense que Lars von Trier peut vraiment continuer avec un acteur puissant qui comprend le film. Tu sais, parce que je pense que l'acteur ici a compris qu'on voulait pas mettre qu'un simple tueur en série, on veut pas faire un Ted Bundy, on veut pas glamoriser, on veut pas que les gens tombent en amour avec ce personnage-là, puis
ouais.
Il l'avait compris. Il l'a compris.
Mm-hmm. Dans la ligne, était quand même relativement mince
ah
aussi.
Oui.
Là.
Ah oui, surtout dans notre époque où on dit qu'on tombe en amour avec les tueurs en série, on en fait des films, on en fait des documentaires, on hésite toujours de savoir est-ce que c'est vraiment eux les coupables, on essaye... Ben, ce film-là, c'est oui, c'est lui le coupable, il est complètement fou, là. Il est
okay.
complètement fou.
Le film le condamne, là, ça, littéralement.
Totalement, ah, totalement.
Okay. Quand même, parfait. Eh bien, dans le fond, j'entends là, que tu t'en sors relativement satisfaite
oui.
du nouveau Lars von Trier,
oui.
Et c'est tant mieux, donc, mesdames et messieurs, si jamais ça vous intéresse, vous vous jetterez là-dessus The House That Jack Built. Il nous reste une petite minute avant la fin de la première demi-heure, alors restez à l'écoute, mesdames et messieurs, parce qu'en revenant, justement, on va continuer, poursuivre un peu dans la même lignée, un peu horrifique, violente et pleine de suspense, alors que je vous fais ma critique personnellement de histoire effrayante à raconter dans le noir, Scary Stories to Tell in the Dark. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas, la promo du film était
assez absente
et assez trompeuse aussi, c'est
okay.
ce que je vais vous dire aussi en revenant de la pause, tout le monde. Un film qui avait peut-être du mal à se vendre parce que le public était plus ou moins ciblé, mais le voilà, le public en fait, maintenant que j'ai vu le film, maintenant que j'ai vu les entrevues et tout ça, c'est un film d'horreur pour les jeunes, pour les enfants, pour toute la famille, mais
uh-huh.
on n'est pas du côté d'un Monster House comme on avait vu, je pense, avec DreamWorks il y a quelques années. On sait pas non plus paranormal. Non, on est dans un réel film d'horreur que les jeunes peuvent regarder parce qu'il n'est pas obscène ou violent, mais qui reste assez choquant. Bref, on s'en reparle de l'autre côté.
Les gens de cette ville ont raconté des histoires à mon sujet. Des histoires horribles. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi aussi j'ai des histoires effrayantes à raconter.
Sarah Bellows. Raconte-moi une histoire.
Et moi aussi, j'ai des histoires effrayantes à vous raconter. De retour à Cinébrunch, tout le monde, deuxième partie. François Bertium au micro, accompagné comme toujours de Vicky Langlois. Et ce que vous venez d'entendre, c'est un bref aperçu, extrait sonore du tout nouveau film d'horreur qui vient de débarquer dans nos salles, Scary Stories to Tell in the Dark, histoire effrayante à raconter dans le noir. Film, comme je le disais au préalable, réalisé par un réalisateur norvégien qui avait l'intention de concocter un film d'horreur pour toute la famille, mais un vrai film d'horreur. Donc un film qui est pas seulement un film d'ambiance un peu style chair de poule, hein, ou quelque chose comme ça, qui reste très amusant, qui reste divertissant et drôle. Je parle du chair de poule qui était sorti il y a quelques années avec Jack Black.
Je pensais que c'était ça que tu voulais parler tantôt avant la pause.
Oui, on pourrait penser que c'est ce genre-là, mais non. On est là avec quand même des gens qui adorent le cinéma d'horreur. Okay. Donc, le réalisateur André Ovredal, si je le dis correctement, qui avait réalisé il y a quelques années Troll Hunter, qui était pas si mal, une belle curiosité. Quelques années plus tard, il avait réalisé Autopsy of Jane Doe, que j'ai vu par extrait, mais pas au complet.
Ben, moi, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus.
Non, c'est bon, on a le même problème.
C'est ça, hein? Quand on est fan de cinéma, là, on veut les voir légalement, nos films. Arrêtez de nous dire, il est disponible sur Internet. Non, on veut le voir légalement.
On va faire notre possible.
Fait que celui-là, on l'a pas vu parce qu'on l'a pas trouvé.
On n'a pas réussi à le trouver, malheureusement, mais il paraît que c'est pas une grosse perte, si je me fie du moins aux critiques que j'ai trouvées sur Internet. Mais bref, quelqu'un qui connaît le cinéma d'horreur, qui aime ça. Et un film qui est produit par nul autre que Guillermo del Toro. Del Toro, c'est peut-être un des plus grands amoureux du cinéma fantastique, horreur par la bande aussi des dernières années. Hein. La marque visuelle d'un film de Del Toro, maintenant tout le monde presque peut la repérer, hein, ces monstres, fantômes extrêmement gothiques, imagés, créatifs, et vraiment, on pourrait croire en voyant ce film-là qu'on est devant un film de Guillermo del Toro, tant visuellement, dans la mise en scène, on est dans quelque chose qui est extrêmement proche de son cinéma à lui. Petit synopsis rapidement, et c'est assez intéressant de le souligner, parce que la bande-annonce, les promotions du film avaient essayé vraiment de mettre l'avant le côté peut-être un peu anthologique du film. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a différentes histoires, qu'on va raconter tout ça, qui, somme toute, sont relativement courtes, presque anecdotiques pour certaines. Ce qu'on se rend compte quand on va voir le film au cinéma, c'est qu'il y a un ciment narratif qui relie toutes ces histoires-là l'une avec l'autre. On est dans une ambiance qui est très proche du Hit aussi, qui était sorti il y a quelques années, Stranger Things aussi, dans cette idée-là d'une bande de jeunes, 1968, le soir de l'Halloween, qui vont investir une maison hantée pour y retrouver un livre qui raconte, dans lequel est écrit des histoires d'horreur. Mais la petite particularité, c'est que lorsque les enfants vont ouvrir le livre, sur certaines pages, ces pages-ci seront vierges, et des histoires vont commencer à s'écrire toutes seules dans le livre, au même moment où ces histoires-là vont se produire dans la réalité. Donc on est dans un concept un peu conte à rebours, où les personnages attendent que le livre se manifeste, raconte une histoire, essaie de trouver un moyen de contrecarrer l'histoire. L'histoire se déroule en même temps et on assiste au tout jusqu'à, bien entendu, une certaine résolution. Alors, la première affaire, je pense vraiment qu'il faut évoquer, et je l'ai déjà dit, les monstres, les histoires sont aussi mémorables qu'effrayantes. Et vraiment, je le pense, surtout pour un film comme ça, qui... J'aurais vraiment voulu voir ce film-là quand j'avais 10 ans. Avec une bande d'amis, tu sais, comme ça.
Oui, oui.
qu'on aurait regardé. On aurait ri un peu du film par moment parce que c'est ridicule, mais on aurait eu peur à certaines scènes aussi, tant elles restent dans l'imaginaire, elles sont marquantes et surtout aussi variées. Vraiment, d'une histoire à l'autre, on va toucher à tous les décors typiques d'un film d'horreur. On va aller dans un hôpital, on va aller dans une maison hantée, comme je disais, à l'époque victorienne, dans un champ de blé. On va aller toucher différentes mises en place très connues des amateurs du cinéma d'horreur, sans toutefois aller dans quelque chose qu'on a déjà vu, parce que vraiment, d'une histoire à l'autre, on met l'emphase sur le monstre, la créature, l'entité, quand on a surtout l'habitude, surtout dans le cinéma dans les dernières années, de voir les monstres seulement à la fin du film.
Ou pas du tout.
Ou pas du tout, c'est ça, être une menace cachée qu'on imagine, qui peut être aussi une forme d'horreur extrêmement efficace, mais le visuel de ces monstres-là est tellement atypique par moment. Ceux qui ont vu la bande-annonce peut-être penseront à cette sorte de grosse dame blanche dans un couloir d'hôpital. La simple image de cette femme-là me reste en tête depuis que j'ai vu le film, tant c'est particulier, tant que c'est singulier et que ça se voit pas vraiment ailleurs. On est vraiment dans un film d'horreur, comme je disais, qui est pas vulgaire, qui est pas grotesque, qui on peut montrer à des enfants, mais qui reste dégoûtant. Et je pense que c'est ce qui faisait la beauté, hein. Je sais pas si, comme moi, t'appréciais plus jeune à la télévision. On avait des émissions aussi, Chair de poule,
oui,
et toutes ces choses-là.
Oui, ben oui.
Qui racontaient tout le temps des petites histoires d'horreur. Oui, des histoires à dormir debout,
oui,
je disais, hein, souvent.
Mais t'avais les Chairs de poule, t'avais Are You Afraid of the Dark?
On est là-dedans. On est totalement là-dedans. En fait, c'est adapté, je pense, d'un livre qui est un peu dans la même veine. Et on est vraiment dans cette idée-là, justement, d'avoir des histoires qui peuvent être repoussantes, dégoûtantes, sans être visuellement complètement gore.
Ouais.
Là-dessus, vraiment, la séquence avec le bouton m'a horrifié totalement. Okay. Même plus que des films d'horreur que j'ai vus qui sont considérés comme plus matures. Mais c'est vraiment tout dans le côté très ludique de tout ça. Hein. On attend la prochaine histoire, on se demande c'est quoi, les monstres sont intéressants, sont le fun. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est un plaisir à regarder. C'est pas un film à prendre trop au sérieux quand même. Hein. Les personnages sont assez oubliables si on pense à des Stranger Things ou It. Quand même, qui nous ont habitués à des groupes de jeunes qui sont
plus marquants.
Oui,
c'est ça, j'allais te poser la question, c'est des jeunes. Est-ce que les acteurs sont bons? Est-ce que c'est intéressant?
Ouais, ben, le jeu d'acteur est correct, mais je dirais que l'attention, l'intérêt n'est pas là. Ce qui fait qu'on finit par l'oublier un petit peu parce qu'ils sont pas mauvais non plus. Comme diraient les Français, ils font le taf. Mais pour le reste, vraiment, c'est ça. C'est la mise en scène, la mise en place, le concept narratif qui est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que moi, je recommanderais à quiconque est intéressé par un film d'horreur, comme il s'en fait peu, qui considère sérieusement son jeune public, qui a pas peur de lui faire peur, mais qui transgresse pas la ligne non plus. Pour vrai, c'est, je pense, un film qui pourrait en traumatiser plusieurs jeunes générations sans pour autant être un film que les parents devraient absolument cacher.
Ça va être le genre de film qu'ils vont parler dans 10 ans dans leur podcast.
Oui, et ça risque aussi d'être un film culte d'Halloween, vraiment, parce que ça prend place durant l'Halloween, tout ça. Je soupçonne même que le film soit sorti en août, pendant que la saison est relativement calme, pour peut-être aller en streaming pendant l'Halloween. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs, il y a quand même cette année, plusieurs films à la thématique Halloween qui sortent. It, le Joker, toutes ces choses-là. Et je pense que c'est le genre de film que les gens n'iront pas voir au cinéma, mais pourraient laisser une petite chance s'ils le voient sur Netflix. Du moins, je l'espère.
Oui, on sort gros des films d'horreur à l'Halloween, mais entre toi et moi, les jeunes vont se faire une soirée à la maison.
Exactement.
Avec leurs bonbons, puis tout ça. Ça va se passer gros à la maison dans la semaine de l'Halloween. Oui, ils vont y aller en voir dans le mois, mais là, le soir d'Halloween, c'est en streaming, puis c'est vrai que celui-là, moi, je le garde en tête. Tu m'as convaincu de le garder en tête pour ma
ça
soirée d'Halloween.
Ça serait intéressant. Si vous voulez même un petit programme double, je vous recommanderais un autre film dans la même veine, Trick or Treat.
Mais je sais ce que j'allais dire, tu t'en vas là. Est-ce que c'est... parce que Trick or Treat peut être assez violent. C'est un peu moins violent?
Visuellement, c'est moins violent, mais bon, ça se passe hors cadre.
Ouais, on peut
se l'imaginer tout ça.
Parce que visuellement, peut être assez violent, Trick or Treat.
Mais ça reste plus sérieux aussi. Il y a une teinte d'humour, de sarcasme dans Trick or Treat, quand même, là, certains personnages.
As-tu vu Krampus?
Oui, oui, oui.
Tu vas-tu là-dedans un peu? Parce que moi, Crumpus, ouais, je savais pas encore que c'était pour la famille. Fait que ça et tout, ça m'avait rebuté un peu.
Oui, oui, oui. Ben, ça va plus loin. Ça va vraiment. Je pense là-dessus, là, c'est au niveau vraiment des images, même de l'ambiance sonore. Il y a plus de jump scares aussi que dans ces deux films précédemment cités. Donc, un film encore plus horreur que ces deux-là, mais qui reste quand même accessible, je pense, à un plus grand
public.
Mais
comme tu disais avant la pause, peut-être un problème de
publicité. De promotion,
de
oui.
De promotion, exactement. De public ciblé avec ce film-là, parce que ça serait mon genre de film, puis j'en avais à peu près pas entendu parler.
Ben voilà, maintenant tu le sais, Scary Movies, Scary Stories to Tell in the Dark, c'est sûrement dans ta palette de goût, Vicky, comme sûrement les prochains films dont on va parler. Voilà de retour pour notre dernier segment de ce Cinébrunch. Dernier segment qui m'a été inspiré par un aspect du film Scary Stories to Tell in the Dark. Je ne vous ai pas encore évoqué et c'est le commentaire politique du film. Le film se passe en 1968 durant la réélection de Richard Nixon, sur laquelle on va revenir de temps en temps via quelques plans ici et là du film, quelques commentaires aussi des parents notamment qui se disent désabusés par Nixon, un peu le considèrent comme menteur, tout ça. On a quelques petits commentaires sociaux aussi sur l'importance des histoires, l'importance de ne pas répéter l'histoire aussi.
Ah, ok, pas l'importance de rêver.
Oui, il y a un peu de ça, mais vraiment plus le côté...
histoire avec un grand H.
Ouais, il y a de ça aussi. L'importance des histoires pour mieux comprendre notre monde et l'importance de l'histoire pour pas la répéter.
OK.
Et je trouvais ça assez intéressant et particulier, cette idée-là d'un commentaire social, voire même politique, dans un film d'horreur. Parce que... on revient un peu à notre actualité du début, mais en fait, toute cette mise en scène-là autour du président Nixon est assez clairement un commentaire, un reflet, une métaphore peut-être même du président américain actuel en ce moment. Ce qui me faisait dire, avec une petite réflexion, et je ne sais pas si tu abondes dans dans la même voie, on verra bien, mais je remarque qu'il y a quand même plusieurs films d'horreur américains des dernières années qui prennent la tangente sociale du commentaire, voire même justement politique par moment. Est-ce que c'est une tendance, une mode? Je sais pas trop, je me posais la question. Et comme toujours, bon, ça aide bien de comparer. Donc j'avais le goût de faire un petit retour dans le temps.
Vas-y.
Avant de mieux exposer peut-être ce qui est la particularité du cinéma d'horreur des années 2010.
Suis.
Dans les années 80... Bon, t'as peut-être pas un doctorat en cinéma d'horreur, mais t'as une très grande connaissance de ce que j'en comprends. Le cinéma d'horreur s'axait sur quoi essentiellement?
Les années 80, c'est la fin du slashers.
Ouais.
Le début du méta, mais beaucoup... on était vraiment dans le free-fall, on était énormément dans le méta. On se cherchait beaucoup, fait qu'on allait beaucoup dans le virus aussi.
Dans le virus?
Zombie.
Le début, oui. Ben ça, le zombie, on en avait parlé aussi il y a quelques semaines avec The Dead Don't Die. C'est un peu une sorte de commentaire social en
exactement,
soi aussi.
Exactement, ouais.
Sur la surconsommation. Oui, c'est ça, il y avait le slasher aussi,
mais
je pense.
Les années 80 étaient une époque où on n'a pas pris le cinéma d'horreur très au sérieux. Au contraire
non.
De ce qu'on pense.
Ben, beaucoup de choses, je pense, dans les années 80, en fait. Hein, même le cinéma d'action, à ce moment-là, on le prenait peut-être moins au
exactement.
Sérieux. Donc, on est vraiment, ouais, peut-être dans un côté plus autodérision.
Énormément.
Dans les années 80, ce qui se reflète justement dans beaucoup de la culture populaire de cette époque-là, comme on le dit. Hein, je pense même dans la musique très pop bonbon qui est sortie à ce moment-là, on est dans une sorte de légèreté par rapport aux propos de fond. Années 90, j'ai l'impression, avec mes petites recherches, qu'on était peut-être dans une horreur plus psychologique, presque proche du thriller. Je pensais au Sixième Sens, au Silence des Agneaux, Misery, peut-être même Scream, qui est
C'est ça. Et là, les années 90, il y a eu un revirement dans le cinéma d'horreur, où notre cinéma d'horreur était beaucoup plus thriller psychologique, parce que notre cinéma purement d'horreur était tellement MTV, movie clip, très ado, très léché, axé sur les filles sexy. On a peu fait dans les années 90 des films d'horreur comme on les connaît encore aujourd'hui, où les personnages ont de la profondeur, si on veut. Il y en a certains que moi j'apprécie, mais que mes collègues n'aimeront pas du tout.
Comme ça,
13 Ghosts.
OK.
Ouais. J'ai gros du monde qui n'aime pas autour de moi parce que justement, ça va vite, c'est très clip, on s'intéresse peu aux personnages.
Ça me fait penser à I Know What You Did Last Summer.
Exactement,
ces choses-là.
C'est ça.
C'est très teen movie finalement.
C'est très teen movie, mais sans qu'on aime les teens. On rit un peu des teens. On va toujours mettre le fameux adolescent qui était donc cool au secondaire puis qui est rendu loser dans sa vie. Dans I Know What You Did Last Summer, c'est une fille interprétée par Sarah Michelle Gellar. On a tout le temps ça dans les films des années 90. Il y a un énorme manque de subtilité. C'est ça que j'essayais de dire.
Fait que c'est drôle parce que d'un côté, c'est ça, on a un cinéma d'horreur plus cérébral, comme je disais, avec Seven, peut-être ces choses-là.
Ouais.
Puis de l'autre, on a quelque chose de complètement déluré de ce que je comprends. On pense souvent que le cliché du cinéma d'horreur est né dans le slasher. J'ai l'impression, de la manière qu'on parle, qui est quasiment plus c'est concrétisé dans les années 90.
Énormément, parce que dans les années 90, on n'était pas assez méta pour se comprendre. C'est dans les années 90 qu'on a fait un Halloween avec Tara Banks. Le Halloween où on se filme dans une maison puis on se fait tuer dans la maison. Très MTV, très porté. C'est le YouTube. En les années 90, là, c'est comme si tout le monde avait accès à être devant la caméra puis son 15 minutes de gloire. On
c'est
a
vrai
pris
que ça
vraiment.
Là-dessus.
Donc, l'accent était très sur le l'ado épais, qu'on s'en fout.
Année 2000 maintenant. J'ai l'impression, au vu de ce que je t'allais voir justement, les petites listes, qu'on est dans une direction beaucoup plus visuelle ou même dans quelque chose qui cherche à choquer. Hein. Visuellement gore peut-être avec les décadences Destination Finale, même 28 jours plus tard qui justement on avait le zombie lent très peu cérébral tout ça, et là on a des zombies nerveux qui vont mordre tout le monde, arracher tout le monde. Je pensais même c'est ça à des films qui ont vraiment touché, qui ont vraiment miser sur cet aspect-là, gore est sensationnel, comme les Human Centipede, ces
exactement.
Choses-là.
Exactement. Là, on est vraiment dans le porn gore slash plus que t'en mets dans l'écran, mieux c'est. La limite est jamais assez loin, la limite est jamais atteinte. On en oublie gros nos classiques, ou en tout cas, on essaye des parodier ou des ramener sur place.
Ouais.
On essaye d'aller... Tu sais, ça a commencé beaucoup avec le film L'Auberge, hein, où
on
est gros dans la torture de l'être humain, on est gros dans le corps être humain. Il y a une théorie aussi que c'est une époque où on était très enfant-roi, très proche de son corps, énormément dans la projection de la personne qu'on est.
Et tu vois aussi, c'est... j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de ça pour venir choquer le spectateur confortable chez eux. Moi, j'avais peut-être vu aussi là-dedans, parce que c'est à ce moment-là, dans ces mêmes années-là aussi, avec la guerre en Irak, tout ça, qu'on a eu tous les scandales de torture aussi,
exactement.
Guantanamo, et ces choses-là. Il y a des deux, peut-être,
il y a
qui parlent là-dedans.
Et pas que ça a arrivé en début 2000, mais on a une grande recrudescence du home invasion. T'es pas en sécurité, peu importe où que t'es.
Oui,
avec les paranormal activities,
Strangers,
t'es pas en... t'es pas en sécurité où que tu sois. Ça l'a commencé énormément.
C'est vrai, c'est vrai. Puis là, maintenant, on en arrive année 2010. Et là, bon, on sait bien, c'est large. Peut-être que le grand défaut de ce segment-ci, ce sera peut-être de peut-être trop sommariser.
Tout à fait.
Mais bon, bref, il faut. Il y a une petite tangente au milieu des années 2010 qui est bien intéressante dans le cinéma d'horreur. Et pour ça, j'ai noté surtout trois films d'horreur qui semblent vouloir avoir un commentaire social d'une manière ou d'une autre. J'ai un petit jeu pour toi. On va s'amuser. J'ai les trois extraits sonores de ces trois films-là que je trouve assez représentatifs d'un contexte politique dans le cinéma d'horreur américain. Vite, je les fais jouer. On essaie de les deviner, on en parle.
D'accord.
Allons-y. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez jouer à notre petit jeu, quoique relativement simple.
Vous êtes d'où? Vous habitez en ville?
Oui, on est juste parti pour le week-end.
Permis de conduire, s'il vous plaît.
C'est pas lui qui était au volant?
J'ai pas demandé qui était au volant, je contrôle son identité.
Sinon, depuis quand ça date votre petite affaire? Nous avons engagé Georgina et Walter pour s'occuper de mes parents. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer.
Alors, est-ce qu'on a deviné? C'est quand même assez facile.
Je pense
que
c'est Get Out,
celui-là. Ben oui, exactement, Get Out de Jordan Peele, qui est sorti il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant. Quand même un de ses rares films d'horreur aussi qui s'est ramassé nominé aux Oscars, entre autres justement pour sa métaphore sociale du contexte un peu raciste dans certaines parties des États-Unis. Puis je pense que ça en avait quand même bousculé plusieurs au moment où le film avait sorti, parce que c'est quelque chose qu'on a rarement vu, ou du moins représenté comme ça, le racisme dans un cinéma d'horreur.
C'est que Get Out, le méchant, c'est nous.
Oui, oui, tout à fait.
Le méchant, c'est pas l'autre. Le méchant, c'est pas l'étranger. Le méchant, c'est nous.
C'est même nos stéréotypes, je dirais. Oui. Parce qu'il y a cette fameuse, excellente, je trouve, scène où le personnage, pour ceux qui l'ont pas vu, dans le fond, Get Out, un personnage afro-américain qui sort avec une jeune femme caucasienne. Il va dans sa belle famille et se rend compte qu'il y a certaines problématiques, ou du moins les gens sont un peu étranges dans le village. Et t'as cette fameuse scène-là où il rencontre un peu tout le monde dans le village, tout ça. Et tout le monde va porter des jugements extrêmement stéréotypés à propos de lui. Ouais. Qu'il est bon en sport parce qu'il est noir, qu'il court vite, qu'il sait danser. Bref, j'ai l'impression que c'est vraiment... le film met l'horreur sur la manière qu'on a d'altérer notre vision par rapport aux préjugés qu'on a.
Ouais.
Et c'est un film qui en a peut-être inspiré d'autres par la suite, et même justement inspiré une carrière à Jordan Peele, qui a fait un peu le même propos social aussi après cette année même, dans le film Us. Je sais pas si tu as eu l'occasion de
non,
le voir.
Non, je l'ai pas vu, mais il est sur ma liste. Il va sortir bientôt. Puis,
oui,
ouais.
Oui. Puis c'est encore là, c'est ça. On est vraiment dans un horreur qui est nous, en fait. Ou qui est en fait notre la déviation de notre culture, de ce qu'on est, de ce qu'on voit, de ce qu'on représente.
Us.
On est, ouais, on sait ça, exactement. Us. C'était le fun, hein, le petit jeu aussi avec ce titre-là, parce que Us, c'est aussi US, United States.
Oui, ben oui, ben fait oui.
C'était vraiment là.
C'est très immersif.
Extrêmement, oui, oui, extrêmement immersif. J'y vais avec un autre.
Oui, j'ai hâte.
Oui, alors celui-là, peut-être encore plus évident.
Oh. Autorisation. De libérer toute la haine et la violence qu'ils gardent au fond d'eux-mêmes.
Pourquoi vous ne tuez personne ce soir?
Parce qu'on ne ressent pas le besoin, Charlie.
Souviens-toi que la purge est une bonne chose.
Ouais, ben là, le titre est dans l'extrait, c'est la purge!
Et voilà, voilà, je l'ai fait jouer trop longtemps, malheureusement. Mais oui, la série La Purge, qui est un cas encore plus intéressant de la politisation, je trouve, de cette série-là. Tu les as vus?
Oui,
film la
presque
purge.
Tous.
Le premier?
Oui, oui, oui. Premier, deuxième, assez, puis relativement le troisième. Là.
Assez unanimement décrié comme le pire des quatre.
Ouais, mais...
En quelque part. Ben, je pense surtout, c'est que quand le premier film est sorti, il y avait un concept fort qui
ouais,
semblait pas
c'est
exploiter
ça, exactement,
vraiment.
Exactement.
Pour finalement un film Home Invasion, comme on disait,
voilà.
qui était assez banal. Le premier film, je pense... a pas été le succès vraiment peut-être qu'il attendait. Puis on est au début des années 2010, on est peut-être dans une recrudescence justement de ce qui se faisait dans les années 2000. C'est à partir du, je pense, ben du deuxième, troisième même, troisième qui est l'image la plus évidente, puisqu'il était sorti en 2016 et on a exploité vraiment l'idée de la campagne électorale qui avait lieu à ce moment-là. Et là, le propos politique est absolument évident, là.
Oui, c'est dans ta face. Là. La purge, ça peut pas être plus dans ta face que ça. Là.
Non, ben c'est
ça. C'est très, très clair. Et ça te ramène à toi-même. Qu'est-ce que tu ferais? Parce que tu peux ne pas te battre, mais tu vas peut-être te faire attaquer. Tu peux aller au Canada, mais tes biens ne sont pas protégés. Pourquoi tu restes encore aux États-Unis si tu sais qu'à chaque année, tes biens ne sont pas protégés, ta personne n'est pas protégée.
Il y avait des films qui démontraient bien ça, justement, là, cette lutte-là des classes, là, on le voit bien là, dans le deuxième, même quatrième opus, ces gens trop défavorisés pour pouvoir se sortir d'une telle situation.
Exactement.
C'est à un certain extrême des réalités qui se retrouvent dans certains pays aussi, où des peuples défavorisés sont à la merci un peu de la violence qui se passe là-bas.
C'est incroyable.
Et ce qui était beau justement à voir aussi, c'était cette manière-là d'opposer les riches aux pauvres. On avait un peu ça. Un petit dernier qu'on n'aura pas beaucoup de temps de parler, mais on y va vite, 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 parce que je le trouve intéressant. Allons-y.
Je rêvais d'être assez grande pour sortir avec des garçons avant. J'avais cette image de moi, main dans la main avec un garçon super mignon.
Et on n'avait pas beaucoup de temps, mais est-ce que tu as un petit nouvelle comme
ça? It Follows,
exactement.
Ah, ben ouais. 3-3!
Peut-être un film Me Too avant le mouvement Me Too. Mais bref, on n'aura pas plus le temps de parler de cinéma d'horreur et social. Mais ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette heure de Ciné Brunch. On se revoit très bientôt, tout le monde.
Yes!
Bonne journée!
Au revoir!